Europe 1.
Heures, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, ici Mathieu Noël, animateur, humoriste, journaliste et, depuis la rentrée, écuyer de son Altesse Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu. C'est bon, vous pouvez vous relever maintenant.
Okay.
Bonjour Merci. À tous. Enchanté à l'idée de vous retrouver pour 2 heures d'histoire teintée d'allégresse. 2 heures pour découvrir 3 personnages issus d'époques différentes, mais partageant un point commun.
Et aujourd'hui, 3 personnages d'Alexandre Dumas qui ont existé en vrai.
Oui, absolument, Mathieu. À la veille des 150 ans de la mort de l'écrivain Alexandre Dumas, qui s'est éteint, je vous le rappelle, le 5 décembre 1870.
Ah, de tête, j'aurais dit le 4, moi, tu vois. C'est bien que tu sois là pour me rappeler.
Je vais vous raconter le destin de Charles de Batz de Castelmort, le vrai comte de D'Artagnan, devenu célèbre personnage des 3 mousquetaires, évidemment.
Évidemment.
Ah oui. Mais aussi d'un autre personnage de ses romans qui a réellement existé. Le comte de Monte-Cristo est inspiré de la vraie vie d'un certain François Picot,
vous verrez. Il a bien fait de le baptiser Monte-Cristo, ça claque plus que François Picot, François qui Pignon. Fait très François Pignon, oui, hein, vrai dans le film de Francis Pignon. Weber. Quoi.
Quant à vous Mathieu, vous vous pencherez, avec élégance bien sûr et votre doigté habituelle, sur Isabelle Adjani, inoubliable reine Margot à l'écran.
Avec élégance bien sûr, on rappelle que c'est la marque de fabrique de cette émission, comme vous l'avez encore prouvé mardi dernier à l'issue de notre spécial Moustachu de l'Histoire. Et sinon Stéphane, quel moustache vous allez plus taper dans l'œil en tout bien tout honneur cet après-midi.
Bah c'est Amanda Lear. Non.
Je vous parlerai donc d'Isabelle Adjani avec un peu plus de tact que vous d'Amanda Lear, Stéphane.
Du tact, eux n'en manquent pas. Comme chaque jour, on accueille nos 3 mousquetaires de l'histoire.
Oui, enfin je dirais plutôt 2 mousquetaires et Milady. Soyons classe, Stéphane.
Milady. Clémentine Portier-Kaltenbach, elle nous entraîne dans l'intimité des grandes semondes.
Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Et puisque Mathieu, vous vous êtes présenté comme l'écuyer de Stéphane Bern, eh bien moi je vais aujourd'hui vous parler d'une écuyère. En fait, vous le savez, Alexandre Dumas a une ribambelle de maîtresse.
Ah bon,
il ne s'est marié qu'une seule fois, mais sa toute dernière conquête fut une jeune américaine extrêmement étonnante, une certaine Ada Menken. Et ce fut là l'ultime cavalcade amoureuse, et ce fut aussi un beau coup monté que je vous raconterai tout à l'heure.
Quant à David, alors aujourd'hui vous parlez d'un sujet vraiment d'actualité,
oui. Parce que
c'est aujourd'hui le
c'est le Black Friday.
Si ça s'appelle Black Friday, c'est que c'est pas français.
C'est pas français et on saura pourquoi. On saura pourquoi ça s'appelle Black Friday,
oui.
Et ça n'a rien à voir avec l'esclavage, oui. Contrairement à ce que oui. beaucoup de gens pensent.
Ni avec le jeudi noir le crack boursier.
Il y a quelque chose à voir de ce côté-là plutôt.
Très bien.
Sur la noirceur.
Et puis Olivier Pouls avec. Avec une recette. Il y a eu un livre de recettes, Olivier Pouls, il n'y a pas très longtemps, sur les recettes d'Alexandre Dumas.
Alors, Alexandre Dumas était un fin gourmet. Il a le dernier ouvrage qu'il a publié post-mortem,
oui,
d'ailleurs.
C'est
un livre de cuisine. C'est le grand dictionnaire de la cuisine d'Alexandre Dumas qu'il a fini de rédiger quelques mois seulement avant sa mort, qui était publié après. C'était un fin gourmet. Il prétend avoir testé plus de 3000 recettes. Et effectivement, certaines de ces recettes ont été remises au goût du jour, on va dire. Et je vous parlerai des pommes de terre façon Alexandre Dumas, tubercule pour lequel il avait entre autres une grande passion.
Tubercule pour lequel il avait une grande. Il n'y a que vous.
C'est-à-dire qu'il avait des passions pour d'autres choses ou il avait d'autres types de passions pour la tubercule.
Pour les femmes, visiblement.
Pour les femmes et les tubercules.
Pour les pommes de terre.
Mais dans la cuisine et les femmes, on comprend qu'ils soient morts pratiquement ruinés.
Non, mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans la vie finalement
que les tubercules et les femmes. C'est un beau message envoyé à la Jean-Claude. Enfin, les amis, Stéphane, ces derniers jours, forcé de constater, vous vous êtes refait la cerise dans Bern to be Alive. Le quiz qui vous approche chaque jour
parce que
à Clémentine.
On approche des fêtes et j'aimerais vraiment que Clémentine...
Oh le faucheton.
Là, je dois dire, Stéphane, qu'en fait, si vous avez gagné récemment dans le quiz, c'est quand même pas pour rien. C'est vos méthodes à base de consultations intempestives de téléphone sous la table du studio ne font pas honneur à votre réputation d'intégrité. J'ai conscience que ces accusations de tricherie sont graves. C'est pourquoi je vous offre un droit de réponse. Qu'est-ce que vous avez envie de me dire ?
Nazi.
Bien, je crois que toutes les conditions sont réunies pour qu'on passe un beau moment. Je vous propose qu'on démarre sans tarder avec notre premier personnage d'Alexandre Dumas ayant vraiment existé. D'Artagnan.
Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Peu de gens le savent, mais le héros de la trilogie des 3 mousquetaires n'est pas né sous la plume de Dumas. Le légendaire Gascon a véritablement existé. Son nom, Charles de Batz de Castelmore, comte de D'Artagnan, un mousquetaire à la réussite flamboyante ayant côtoyé les plus grands du royaume au XVIIe siècle, Louis XIII, le cardinal Mazarin, Colbert, Fouquet, et bien sûr, le roi Louis XIV. Oui, le légendaire D'Artagnan d'Alexandre Dumas est basé sur un personnage bien réel. Mais son histoire telle qu'elle est racontée par l'écrivain dans sa célébrissime trilogie n'en reste pas moins fictive. Le résultat d'un savant mélange dont l'écrivain, connu pour ses emprunts à des épisodes historiques, avait le secret. Mais les personnages et faits d'histoire, libre inspiration et débordante imagination. À son sujet d'ailleurs, Victor Hugo a écrit l'éloge suivant. Toutes les émotions les plus pathétiques du drame, toutes les ironies et toutes les profondeurs de la comédie, toutes les intuitions de l'histoire sont dans l'œuvre surprenante construite par ce vaste et agile architecte. Un architecte, comme cela est bien dit, pour décrire la manière dont Dumas s'est approprié la vie de Charles de Batz de Castelmore et a construit son D'Artagnan à lui. S'appuyant certes sur des fondations préexistantes, mais construisant de sa plume un monument littéraire. C'est vrai que le véritable D'Artagnan a peu de choses à voir avec le héros des Trois Mousquetaires. D'ailleurs, ce que Dumas a imaginé de la vie de cet homme, il l'a extrapolé à partir d'un ouvrage déjà largement romancé. Ce livre, sur lequel l'écrivain tombe, un peu par hasard, lors d'un séjour à Marseille en 1843, s'appelle « Les mémoires de Monsieur D'Artagnan ». Une pseudo-biographie écrite au tournant du XVIIIe siècle par un ancien mousquetaire, un certain Gatien de Courtils de Sandras, qui déjà avant Dumas avait largement pris ses aises avec la véritable histoire de Charles de Batz de Castelmore. Mais qu'à cela ne tienne, Dumas est fasciné par l'ouvrage. Il l'inspire. Alors, il s'attelle immédiatement à l'écriture de son futur roman qui connaîtra le succès qu'on lui connaît. En quelques mois seulement, les Trois Mousquetaires sont nés. D'abord publiés en feuilleton dans le journal Le Siècle, ils sont rapidement édités en livre. Le succès est tel que Dumas en écrit la suite l'année suivante, intitulée « 20 ans après ». Puis un troisième volet, « Le Vicomte de Bragelonne », est publié dans la foulée en 1848. Alexandre Dumas était un auteur pour le moins prolifique. Baudelaire disait d'ailleurs de lui qu'il était une vitalité universelle. Savez-vous, Mathieu, combien de romans il a écrit au cours de sa vie?
Plus de 250, je pense.
Oui, exactement. Heureusement que vous avez ma fiche. Plus de 250. Il faut ajouter à cela une cinquantaine de pièces de théâtre et d'autres ouvrages encore. Dumas était assisté dans sa tâche pour les Trois Mousquetaires, d'ailleurs, comme pour le Comte de Monte Cristo, par son collaborateur de l'ombre, Auguste Maquet, dont je vous ai déjà parlé.
Mais oui, il y a eu un tas d'embrouilles à la fin.
Exactement. Mais intéressons-nous à celui par qui toute cette histoire a commencé, le véritable D'Artagnan. Qui était Charles de Batz de Castelmore? S'il est vrai que les points communs entre lui et le personnage de Dumas sont assez limités, il n'en garde pas moins quelques traits de caractère en commun. Le courage, une fidélité sans faille au roi, un grand cœur et bien sûr une vie hors du commun, héroïque et romanesque. Le véritable D'Artagnan est né en Gascogne, près de Lupiac vraisemblablement, entre 1611 et 1615. Exit donc les aventures que lui a prêté Dumas au début du règne de Louis XIII et qui font la trame du premier volet de la trilogie. Pas de lutte contre le cardinal Richelieu, pas d'idylle secrète entre Anne d'Autriche et le duc de Buckingham, pas de siège de La Rochelle non plus. Pour une bonne et simple raison, les dates ne concordent pas. Au moment où ces faits se déroulent aux alentours de 1625, Charles de Batz de Castelmore était encore un enfant. Selon l'une de ses biographes, Odile Bordaz, à cette époque, Charles était encore un gamin qui bataillait avec ses petits voisins, pataugeait dans les mares de Lupiac ou recherchait les nids dans la forêt. Cependant, il apprenait le maniement des armes, il avait dans son entourage de vaillants combattants pour l'initier à l'art de tirer la rapière, l'épée à lame longue et fine qui permettait de frapper des stocks, c'est-à-dire avec sa pointe.
Oh, je le savais.
Je le sais, mais je le dis pour nos auditeurs aussi.
Vous n'êtes
pas,
raison de
vous n'êtes pas mon seul auditeur, voyez-vous. Le jeune homme,
espérons-le.
Le jeune homme, comme deux de ses frères d'ailleurs, se destine au métier des armes. Vers 1630, Charles de Batz de Castelmore entreprend donc un voyage à Paris où il espère faire carrière et faire fortune. Ressemblait-il alors à la description qu'en fait Dumas d'un seul trait de plume dans Les Trois Mousquetaires? Probablement pas. Mais la tirade est trop belle pour ne pas la citer. Figurez-vous Don Quichotte à 18 ans. Don Quichotte décorcelé, sans haubert et sans cuissard, visage long et brun, trop grand pour un adolescent, trop petit pour un homme fait et qu'un œil peut exercer, eût pris pour un fils de fermier en voyage. C'est à son arrivée à Paris, ou peu après, qu'il décide d'adopter, enfin d'usurper, est-il plus juste de le dire, le nom de D'Artagnan. Car ce n'est pas le nom de son père, c'est celui de sa mère, Françoise de Montesquiou de D'Artagnan, qui, contrairement à son père, issu d'une modeste famille bourgeoise, est d'origine noble. Ce nom sera donc un atout à Paris. C'est peut-être grâce à ce nom qu'il commence une brillante carrière militaire. D'abord comme cadet dans le régiment des gardes françaises, puis dans la prestigieuse compagnie des mousquetaires du roi, créée par Louis XIII. Est-ce là-bas qu'il rencontre Athos, Porthos et Aramis ? Ont-ils d'ailleurs seulement existé ? À votre avis, Mathieu ? Réponse dans un instant.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Dans la famille des personnages d'Alexandre Dumas ayant réellement existé, je demande D'Artagnan, le plus célèbre des mousquetaires. Stéphane, vous nous racontez cet après-midi le vrai conte de D'Artagnan qui répond au nom de Charles de Bath de Castelmore. C'est chic, mais qu'en est-il de ses compagnons? Athos, Porthos et Aramis ont-ils eux aussi existé pour de vrai?
Eh bien oui, mon cher Mathieu. Ah, ils sont tous les trois non seulement inspirés de personnages réels, mais leur présence est également établie chez les mousquetaires à la même époque. Aramis s'appelait Henri d'Aramitz, Porthos, Isaac de Porto, et enfin Athos, Armand Silègue d'Athos d'Hauteville. Seul petit bémol, ils étaient tous plus jeunes que D'Artagnan, et rien n'atteste qu'ils aient été amis. Du reste, nous ne savons pas grand-chose de ce qui arrive à D'Artagnan jusqu'en 1646, date à laquelle la compagnie des mousquetaires est dissoute par le cardinal Mazarin. Depuis la mort de Louis XIII, Anne d'Autriche et Mazarin assure la régence du royaume. C'est le début des années noires de la Fronde, période de contestation et de guerre civile, durant laquelle D'Artagnan reste un allié fidèle de la couronne, de la reine et de Mazarin. Donc il est l'un des hommes de confiance, sa créature, selon les mots de Colbert. C'est un point commun qu'il partage avec le personnage d'Alexandre Dumas, son honneur et sa fidélité inébranlable au roi. Une fidélité que Louis XIV lui rendra également. Lorsque les mousquetaires sont rétablis en 1658, D'Artagnan est nommé sous-lieutenant de la première compagnie. Il en deviendra plus tard, en 67, capitaine-lieutenant. Puis sera nommé gouverneur de l'île en 72. Le roi a toute confiance en lui. En 1661, il lui confie une mission extrêmement délicate. L'arrestation de Nicolas Fouquet, puissant surintendant des finances. Il en sera quelques années le geôlier. De cet épisode, on rapporte qu'il fait preuve de beaucoup de compassion pour cet homme déchu et qu'il s'applique à rendre sa détention le moins pénible possible. Entre-temps, D'Artagnan a épousé une riche noble, une certaine Anne-Charlotte de Chancely. A-t-il eu avant cela des aventures amoureuses, comme lui en prête Dumas, avec une servante de la reine, comme la fictive Constance de Bonacieux, ou avec une espionne anglaise, comme Milady de Winter? Si l'on en croit les mémoires de Gatien, de Courtils, de Sandras, il aurait effectivement été un véritable donjon. Mais rien ne l'atteste, indubitablement. Enfin, comme son alter ego fictif, le véritable D'Artagnan s'est distingué par son courage, et ce jusqu'à sa mort héroïque lors du siège de Maastricht en 1673. Le courage en commun, et en partie le décès, c'est également en Hollande que le personnage de Dumas trouve la mort, mais bien plus tôt, aux environs de juin 1666, et dans des circonstances un peu floues. Dans le livre, il est sur le point de recevoir des mains de Louis XIV le titre de maréchal de France. Dans la réalité, hélas, ce ne sera jamais le cas du vrai D'Artagnan.
Europe 1, historiquement vôtre.
Alors, la vie parfois est bien faite, Stéphane. Pour continuer à parler du vrai D'Artagnan, nous sommes avec l'historien Jean-Christian Petit-Fils qui a publié justement Le véritable D'Artagnan. Ça tombe absolument parfaitement bien. Bonjour Jean-Christian.
Bonjour Mathieu, bonjour Stéphane.
Bonjour Jean-Christian Petit-Fils. Alors, vous avez effectivement publié Le véritable D'Artagnan chez Talendier, un ouvrage couronné par l'Académie française et un ouvrage qui nous a surtout permis de découvrir ce personnage. Alors, avant que vous ne vous y intéressiez, on connaissait peu de choses sur Charles de Batz de Castelmore, ce vrai comte de D'Artagnan. Qu'est-ce qui vous a donné envie de partir à sa rencontre, si j'ose dire?
Ah ben, C'est très simple, hein. C'est la lecture à 13-14 ans de la trilogie, hein. Les Trois Mousquetaires, 20 ans après, Le Vicomte de Bragelonne. Et j'ai pas honte de le dire, mais c'est Alexandre Dumas qui m'a donné le goût de l'histoire et la passion en particulier du grand siècle. Alors j'ai fait des recherches, en effet il y avait quelques ouvrages antérieurs, mais qui comportaient beaucoup de lacunes dans la carrière de D'Artagnan, et j'ai fait des recherches dans les archives nationales, au service historique de la défense, au département des manuscrits de la bibliothèque nationale, etc. Et j'ai essayé de recomposer cette vie flamboyante et intéressante.
Jean-Christophe Petit-Fils, dans votre biographie, vous expliquez qu'il y a au fond trois D'Artagnan, celui évidemment d'Alexandre Dumas, celui de Gatien de Courtelise et celui de l'histoire. Avec le vôtre, ça fait 4. Lequel est le plus proche de la vérité du personnage?
C'est le mien.
C'est le vôtre, c'est le meilleur.
C'est le mien, évidemment. Parce que, vous savez, Dumas, il a recréé toute une atmosphère très romancée. On est à l'époque romantique. Mmh. On a une vision assez fausse du cardinal de Richelieu, de Louis XIII, même de Louis XIV. Courtille, lui, a écrit les mémoires de M. D'Artagnan. Ce sont de faux mémoires en 3 volumes. Il est allé à la Bastille. Il a rencontré le gouverneur de la Bastille qui s'appelait Bémeau, François de Montlezun, marquis de Bémeau, qui était un ami de D'Artagnan. Mais dans ses faux mémoires, eh bien, la vérité transparaît très difficilement. J'ai beaucoup travaillé ce travail de Courtille et je m'aperçois qu'en fait, tout est, ou quasiment tout, est romancé. Mmh.
Ce vrai D'Artagnan, est-ce qu'il est pour vous aussi romanesque que celui de Dumas? C'est quoi l'élément de sa vie qui fait de lui un bon héros de roman?
Alors, c'est pas le héros brouillon, bagarreur, duelliste qu'on retrouve chez Dumas ou même chez Courtille. C'est un homme de devoir, un grand serviteur du roi. C'est un homme autoritaire. Il aura des démêlés, notamment quand il sera gouverneur de l'île. Il n'est pas commode dans ses relations. Mais en même temps, outre le fait qu'il a été un grand héros de guerre et qu'il meurt très courageusement à Maastricht, alors qu'il n'est même pas de service ce jour-là, cela dit, non, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le côté humain du personnage, ce côté grand cœur que vous avez signalé. C'est l'homme qui est plein de bonté, qui est... tout le monde fera son éloge, Madame de Sévigné, la grande mademoiselle, le roi fera célébrer à sa mémoire une messe dans sa tente après le siège de Maastricht, ce qui est très rare, et Louis XIV dira qu'il est capable de se faire aimer des gens tout en obéissant à des ordres qui n'avaient pas été faits pour leur plaire. D'Artagnan a été s'est occupé en effet de Nicolas Fouquet, il a procédé à son arrestation, du comte de Lauzun qui l'a conduit à Pignerol, du maréchal Dumière dont il a occupé la place à Lille comme gouverneur, et à chaque fois, tous ces personnages ont rendu hommage à D'Artagnan. C'est assez singulier à cette époque-là.
Mais en même temps, Jean-Christian Petit-Fils, il incarne vraiment l'esprit gascon. Quand on parle de D'Artagnan, on dit voilà, un peu rétif à la discipline, rebelle, et dans le même temps, il a fait carrière à Paris. Il a utilisé le nom de sa mère pour créer son propre personnage, ou parce que, comme le nom de sa mère était noble, ça lui permettait d'être davantage respecté dans la compagnie des mousquetaires du roi?
Vous savez, ce nom, bien sûr, c'était beaucoup plus prestigieux de s'appeler D'Artagnan, qui est une petite terre près de Vic de Bigorre. C'est un nom porté par sa mère, une Montesquieu, donc une famille de bonne noblesse, alors que les Bats de Castelmore sont des marchands gascons qui ont acheté le petit château de Castelmore. Et puis c'est tout, ce sont des usurpateurs de noblesse, ils seront même poursuivis pour cela au XVIIIe siècle. Et le premier qui a commencé à porter le nom de D'Artagnan, c'était l'oncle de D'Artagnan, et puis il y a eu le frère de D'Artagnan, Paul. D'Artagnan, en effet, arrive avec ce nom de D'Artagnan et il arrive dans la compagnie des mousquetaires où se trouve Monsieur de Tréville, qui est à cette époque sous-lieutenant, qui deviendra capitaine-lieutenant. Il y a beaucoup de Gascons à Paris et il y a une sorte de clan gascon, le maréchal de Gramont, le maréchal de Gassion, et tous ces Gascons se soutiennent les uns les autres. Et c'est comme ça que D'Artagnan entre dans la compagnie des mousquetaires.
Jean-Christian Petit-Fils, un mot sur le statut de mousquetaire. C'était quoi vraiment exactement un mousquetaire? C'était quoi son rôle? Comment ils étaient recrutés? Pouvez-vous nous dire exactement ce qu'on attendait d'eux?
Alors c'est un corps d'élite qui a été créé en 1600 par Henri IV. À ce moment-là, on les appelait les carabins parce qu'ils portaient des carabines. Et puis en 1622, sous le règne de Louis XIII, on leur donne des mousquets et ils s'appellent donc les mousquetaires. Alors c'est à la fois une garde d'honneur, une unité combattante, ils combattent à pied et à cheval, et puis une école militaire, hein, garde d'honneur, donc qui est toujours très proche du roi, avec bien entendu les gardes du corps du roi. Une unité combattante, ils participent à tous les combats militaires du grand siècle, et puis une école militaire, parce que les jeunes qui se forment, ce sont souvent des Gascons, bien sûr D'Artagnan recrutera aussi beaucoup de Gascons, comme Monsieur de Tréville, ces jeunes gens qui sortent avec un grade de lieutenant, de capitaine, dans les unités de l'armée du roi. Donc mais... c'est vraiment une école militaire.
Oui, oui, mais Jean-Christian, petit-fils, ils n'ont pas tous la même capacité à côtoyer les grands personnages, ce qui est incroyable avec D'Artagnan. Il est mousquetaire du roi, mais il rencontre Louis XIII, il rencontre Mazarin, Richelieu d'Autriche, Louis XIV.
C'est comme si un membre du GIGN venait dîner avec Macron.
Exactement, c'est-à-dire, comment vous expliquez cette proximité avec le pouvoir ?
C'est le talent, c'est sûr. Probablement qu'il avait été repéré pour son courage, pour sa loyauté, et puis probablement aussi il avait été pistonné, passez-moi l'expression, par le maréchal de Gramont ou le maréchal de Gassion, qui étaient des Gascons. Donc il entre au service de Mazarin, et Mazarin l'appréciera énormément.
Cette carrière est fascinante. On rappelle le mot de Madame de Sévigné. Monsieur D'Artagnan ne fut pas vraiment geôlier pour son prisonnier. On parle de Fouquet, mais un ami, un consolateur. Et c'est vrai ce qu'on disait. C'était un homme qui était très humain. En tout cas, Charles de Batz de Castelmaure, comte autoproclamé de D'Artagnan, méritait qu'on s'intéresse à lui. C'est ce que vous avez fait dans votre livre, Jean-Christian Petit-Fils, Le véritable D'Artagnan. C'est paru chez Talendier, réédité en format poche texto. Merci Jean-Christian d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup Stéphane et Mathieu.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les après-midi dès 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. À chaque jour son histoire. Aujourd'hui Clémentine, vous nous racontez la dernière aventure amoureuse d'Alexandre Dumas. Une vraie dame, hein, pas une héroïne de roman.
Un personnage tout à fait étonnant, vous allez le voir. Alors il est vrai qu'Alexandre Dumas n'était pas le genre d'homme fait pour le mariage. Il a quand même essayé une fois, et avec Ida Ferrier, il l'épouse en 1840, et ça a quand même duré 4 ans. En fait, ils vivaient ensemble déjà depuis 7 ans, ils n'auraient pas dû se marier du tout, parce que...
Mais pas d'enfants, voilà. Ils font pas d'enfants.
Ah non, ça c'est autre chose. Alors des enfants, bien sûr. Ah, ça, Dumas,
il en a eu plein.
Alors il en a eu un avec Ida Ferrier, mais il prétendait avoir eu 500 enfants, il n'en a reconnu que 2. Alexandre, le fils de Laure Labbaye, et Marie-Alexandrine, fille de Belgreisheimer. D'ailleurs, vous voyez que pas mégalo, Dumas leur a donné tous les deux son prénom. Hein. Alors, s'il en avait eu 500, je pense qu'il aurait eu quelques difficultés à les baptiser. En fait, on en connaît 5. Et c'est ça qui est amusant, c'est typiquement Dumas, c'est qu'il multiplie tout par 100. Donc... J'en ai eu 500, il en a eu 5. Et son fils chéri, Alexandre fils, lui reprochait beaucoup quand même de s'afficher de plus en plus avec l'âge, avec des femmes extrêmement jeunes. Et c'était le cas justement de la dernière aventure qu'on lui prête avec cette jeune femme, Ada Menken. En fait, en 1867, Alexandre Dumas va assister à la Gaîté Montparnasse, un spectacle intitulé « Les pirates de la savane ». C'est un spectacle que donne donc cette fameuse Ada Isaac Menken. C'est une jeune américaine, elle est écuyère, elle est actrice, et elle monte à demi nu en juste au corps rose sur un fougueux pur sang, décrit le journaliste, et elle s'étend sur le dos de sa monture, et le cheval part au galop, et il y a une scène finale avec une sorte de saut périlleux sur le dos du cheval qui fait le silence dans la salle, chacun retient son souffle, vraiment c'est très impressionnant. Alors, elle est née donc en 1835, elle a 33 ans de moins que Alexandre Dumas, quand même. Elle est vraiment beaucoup plus jeune. Et ce qui est spectaculaire sur cette femme, c'est la multiplicité, la diversité de ses talents. Elle est née en Louisiane. Alors, elle fait un petit peu tout. Elle est danseuse, elle est actrice, elle est modèle pour des sculpteurs. Bon, elle est faite pour s'entendre avec Dumas parce qu'elle a un petit peu tendance à enjoliver. Elle raconte que quand elle était aux États-Unis, elle a chassé le bison avec des cow-boys, qu'elle a été kidnappée par des Indiens, elle leur a fait la danse du serpent. Enfin, elle s'est déjà Matahari avant l'heure. Ada Menken, c'est un peu notre David Castello Lopez. Elle est polyglotte. Hein.
Ah, oui.
Bah oui, elle parle anglais, allemand, hébreu. Elle lit parfaitement le grec et le latin.
Elle parle français aussi.
Français, je ne sache pas, mais elle a dû l'apprendre très vite.
Et alors, c'est dommage d'être avec un Français. Sans français.
Comme elle parlait latin, elle n'a pas dû avoir beaucoup de difficultés à converser en français aussi. Hein. Elle écrit des vers, elle est amie avec Mark Twain. Donc, vous voyez, c'est vraiment, elle aussi, une sorte de monstre sacré. Alors, chose incroyable, elle a été mariée 3 fois, elle. Et comme, avant de partir en France, elle était enceinte d'un 4e enfant, elle se marie en 4e vitesse avec le premier venu, en fait, à New York, hein, le 19 août 1866. Et deux jours après son mariage, elle prend un paquebot et hop, elle part en Europe. Et
avec l'enfant, quand même.
Elle le porte sur elle, si je peux me permettre. Alors, donc.
Ah oui, Stéphane. Oui, je vais vous expliquer quelque chose.
J'ai cru que c'était.
C'était juste après son mariage. Alors, en tout cas, elle part, elle ne devait plus jamais revoir ni son mari ni les États-Unis. Et c'est comme ça qu'elle débute le 31 décembre 1866 au théâtre de la Gaîté Montparnasse. Alors, le spectacle se déploie, Dumas est très impressionné, il vient donc la féliciter dans sa loge. Elle se jette littéralement à son cou parce qu'elle sait qui il est et sa notoriété a traversé les frontières, naturellement. Alors, comme ces deux personnages médiatiques, en somme, ils vont s'amuser à publiciser leur rencontre comme un coup de foudre absolument extraordinaire. Alors, Dumas l'exhibe partout dans Paris, il l'emmène se promener. Mais enfin, on ne peut pas vraiment parler d'amour du côté d'Adam Henken, c'est plutôt un beau coup de pub. Et André Mauroy nous le décrit en disant « Pendant quelques semaines, il redevint jeune, emmenant les cuillères à Bougival, dans les auberges où 40 ans plus tôt, il avait conduit Catherine Lingère. » Alors, Adam Henken, elle avait une marotte, c'est qu'elle aimait se faire prendre en photo avec tous ses amants, tous les hommes qu'elle avait séduits. Et donc, comme Dumas craque pour cette jeune femme, hein, il accepte de poser avec elle. Et il existe donc toute une série de photos où lui est en bras de chemise, assis sur un fauteuil et elle est sur ses genoux.
Mais ils ont vraiment eu une relation, charnelle.
On n'était pas dans son lit, Dumas était quand même un gros consommateur de femmes. Alors, à 65 ans, il était peut-être plus aussi gaillard, mais justement, j'y viens. Parce qu'il se fait photographier avec cette jeune femme, et comme il devait un peu d'argent au photographe, il accepte que la photo soit diffusée. Évidemment, tout Paris en fait des gorges chaudes, et en particulier Verlaine, qui en fait un sonnet moqueur. Que voilà, l'oncle Tom avec Miss Ada, c'est un spectacle dont on rêve. Quel photographe fou, Souda, l'oncle Tom avec Miss Ada. Ada peut rester à Dada, mais Tom chevauche-t-il sans trêve ? L'oncle Tom avec Miss Ada, c'est un spectacle dont on rêve. Donc, pour tout ça, pour vous dire que se passait-il dans l'alcôve entre un homme de 65 et une femme de 33, mais un homme qui a à la fois la santé, mais qui mange beaucoup. Bon, voilà, vous avez qu'à faire preuve d'imagination. Alors, en tout cas, 2 ans plus tard, il la recroise à Paris, où elle doit jouer au théâtre du Châtelet, mais elle est tombée malade, malheureusement, et elle meurt le 10 août 1868.
Elle meurt avant lui ?
Ah bah bien sûr, oui, 2 ans avant et beaucoup plus jeune. Et c'est ainsi que disparu à Paris à 33 ans, le dernier amour d'Alexandre Dumas, ou devrait-on dire la dernière chevauchée fantastique ou pas d'un maître en la matière. En tout cas, les photos, on peut les voir, messieurs, dames, sur Internet, et vous verrez Alexandre Dumas avec sur ses genoux Miss Ada.
Adada.
Voilà. Ada est Adada avec Dumas.
Effectivement, c'est assez flippant. Hein,
mais elle cache son ventre comme ça.
Oui.
Merci beaucoup, Clémentine Portier-Kaltenbach.
Clémentine, vous ne bougez pas. Votre cerveau est encore réquisitionné pour la séquence qui suit. Le quiz arrive avec des questions plus historiques que jamais. Je m'y engage. La dernière fois, je vous avais senti dubitatif quant au caractère historique de certaines questions.
Une tortue qui respire par l'anus. Non, mais vraiment, vous êtes dégueulasse.
C'est la nature qui est dégueulasse, pas moi. Notez-le.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
L'heure du face-à-face a sonné. Notre célèbre quiz oppose donc chaque après-midi, d'un côté, une historienne diplômée et réputée, de l'autre, l'ex-ambassadeur des chocolats Lanvin. Pour battre Clémentine, Stéphane n'a qu'une option, la décrédibiliser, entreprise lamentable à laquelle il se livre chaque après-midi, prétend à sa rivale 1001 défauts.
Et puis certains prétendent qu'elle avait mauvaise haleine.
Stop, stop. Jouons à...
Je parlais de Ingeborg de Danemark.
Ah, vous vous souvenez de qui vous parliez ?
Oui, quand même. Vous savez, je m'intéresse à l'histoire.
Un petit peu. Nous allons voir si vous intéressez vraiment à l'histoire, Stéphane, avec une question éminemment historique pour ce premier quiz. Question 1, Stéphane. Néron, le dernier empereur romain de la dynastie Julio-Claudienne, ne me demandez pas ce que ça veut dire, j'en sais foutrement rien. En tout cas, il mangeait beaucoup de poireaux. Vrai ou faux? On est vraiment dans l'histoire.
Écoutez, là, pourquoi il n'aurait pas mangé de poireaux? Est-ce que le poireau existait forcément? Il est arrivé jusqu'à nous. Est-ce qu'il mangeait des poireaux?
Est-ce que qu'il aurait voulu manger du poireau comme diurétique, lui aussi, comme le président Coty aurait eu des problèmes de prostate. Pourquoi mange-t-on des poireaux?
Sous Néron, il y avait des poireaux. Je vois pas pourquoi il y aurait.
Ce qui est curieux, Stéphane, c'est que les, voyez, les apicius, les sardanapales, tous ces gars-là, on parle de leurs agapes et de leur goût alimentaire étrange.
Ils mangeaient des choses beaucoup plus relevées que des poireaux.
Bah oui, mais si ça se trouve, c'est quand même vrai. Je l'ai jamais entendu dire, en tout cas.
Écoutez, pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas mangé de poireaux?
Vous avez envie d'imaginer Néron
Qui mange des poireaux.
Un bouffeur de poireaux.
Non, mais vous voyez, des poireaux vinaigrettes avec une petite sauce, avec un peu d'œuf, de jaune d'œuf dans
bien
la...
Bien sûr.
Ah, non, c'est et bon, œuf mimosa. Poireaux vinaigrettes, œuf mimosa. J'adore ça, oui,
non, vraiment. Bon, j'étais...
Vous
n'avez jamais été invité aux agapes chez Néron. Je suis vieux, mais pas à ce point, Mathieu.
Vous avez...
Oui, même sans votre téléphone, parfois vous réussissez à trouver des bonnes réponses.
Mais arrêtez,
Stéphane.
Vous m'avez interdit mon téléphone depuis des semaines.
C'est mieux.
Donc je ne peux même pas tricher.
Bonne réponse. On a même surnommé Néron l'empereur porophage. Il adorait les poireaux. Il en mangeait tous les jours pour s'éclaircir la voix et lutter contre une toux chronique. Saviez-vous que le poireau était bon contre la toux? En tout cas, à l'époque, on le pensait. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Le président des États-Unis est désigné là-bas par l'acronyme POTUS. Comprenez les premières lettres de President of the United States. Eh bien, POTUS en latin désigne une potée au chou. Vrai ou faux?
POTUS. Potus, potence aussi, potentia, c'est quelque chose qu'on pend plutôt que... Mais en même temps, la potée, ça vient du pot. Potus, en latin, désigne une potée au chou.
Une potée au chou. C'est la question que je vous pose.
Que ça puisse désigner une potée, oui, je le crois volontiers, parce que c'est le pot, donc ça serait certainement la racine du mot pot dans lequel on fait la potée, ça vient d'un mot latin, donc pourquoi pas, ça doit pas être la potée au chou, là vous tirez le truc un petit peu... pour m'induire en erreur, mais je dirais oui.
Vous avez perdu.
Non, vous êtes moins doué en latin qu'Adam Henken, dont vous nous parliez.
Oui.
Et oui, potus en latin signifie celui qui a bu.
Ah oui.
Oui, il fallait faire option latin.
Bah, j'ai fait latin, mais j'étais nul, cela
dit. Non, moi aussi, j'étais tellement
potus,
nul.
Potus.
Et oui, vous le noterez.
Celui qui a bu.
Celui qui a bu. Stéphane.
Oui, mais ça vient du pot quand même, j'imagine.
Oui,
non
bien sûr, mais enfin, on est loin quand même de la potée. Stéphane Bern, troisième question. Pendant la Révolution, beaucoup de villes en France ont dû changer de nom. Ainsi, Tremblay en France est devenu Tremblay sans culotte. Vrai ou faux?
C'est vrai.
C'est vrai.
Beaucoup de villes.
Là, c'est.
Écoutez, je connais Marseille, il a dû changer de nom.
Attention, la question est.
Tremblay.
Non, je ne vous demande pas si des villes ont changé de nom, ça, on est tous d'accord. Oui. Mais est-ce que Tremblay en France est devenu Tremblay sans culotte? C'est la question que je vous pose.
Je sais qu'il y a des villes en France qui ont dû s'appeler sans culotte. Est-ce que Tremblay en France a dû s'appeler.
Oui. Mais est-ce que Jouy en Josas est devenu Jouy sans culotte?
Oui, Marie-Leroy, vous voyez, c'est devenu. Ou Bourg-la-Reine, évidemment, sont
Bourg-la-Reine
des...
Bourg-la-Reine sans culotte serait effectivement une belle destination.
C'est tout à fait possible, écoutez.
Je dirais oui.
Vous avez gagné.
C'est le sans-faute, pourtant j'essaie de le piéger. C'est le sans-faute pour Stéphane aujourd'hui.
Oui, parce que vous essayez de m'induire en erreur, j'ai remarqué.
Oui, j'essaye un petit peu pour compenser toutes ces... Vous avez triché, je le rappelle à nos auditeurs qui découvriraient l'émission aujourd'hui.
J'ai les mains...
Oui, aujourd'hui vous avez les mains propres, mais ça n'a pas toujours été le cas.
Mais comment donc
C'est vrai, Tremblay en France avait été rebaptisé pendant la Révolution, Tremblay sans culotte, le Havre est devenu le Havre Marat.
Le Havre Marat, oui, Saint-Léger-en-Yvelines, Marat des Bois aussi.
Ah oui, il y a eu
c'est très
marins.
Bon les Marats des Bois.
Port-Louis est devenu Port-Libre et le Mont-Saint-Michel est devenu le Mont-Michel. Tout simplement, il n'y avait plus de saint.
Les gens n'y arrivaient pas d'ailleurs, c'est ça qui est drôle. Quand on dit je vais boulevard Saint-Germain, je vais boulevard Saint-Michel, de devoir se passer du saint, c'était très difficile.
Boulevard Michel, boulevard Germain, c'est vrai que c'est moins élégant. Question numéro 4 pour vous Clémentine. On le sait, l'essentiel c'est de participer. Justement, est-ce que le baron Pierre de Coubertin aurait pu participer à la dernière exécution par guillotine en public en France?
Oui, je pense que oui, parce qu'à ma connaissance, il est mort, je pense, en 21, Pierre de Coubertin, me semble-t-il, puisque c'est sa mort qui a permis à Alice Millia d'imposer des jeux féminins. Et donc, je pense que la dernière exécution publique, je pense que c'est plus tardif. Moi, je pense que oui, il aurait pu assister à la dernière... Sinon, ça va se jouer à très peu, comme d'habitude. Je pense que oui, il aurait pu.
Vous avez, et ça devient une habitude, encore perdu.
Encore perdu. Mais qu'est-ce qui se passe, Clémentine?
Oh là là,
c'est chou blanc aujourd'hui.
Ah bah et oui,
on parlait de beauté,
le dire,
c'est
hein.
le chou blanc. Alors on le sait, l'essentiel c'est de participer. Pierre de Coubertin, non, il n'aurait pas pu assister à la dernière exécution par guillotine en public en France. Ça s'est joué à peu de choses. Eugène Widmann était un tueur en série allemand qui a sévi en France. Il était surnommé le tueur au regard de velours. Il a été le dernier guillotiné en France à Versailles en 1939. Pierre de Coubertin est mort en 1937.
Ah, je me suis complètement trompée alors. Il faut que j'aille réviser mes classiques.
Il faut surtout que vous écoutiez le podcast On de la Traconte consacré à Eugène Widmann, très réussi sur cette.
Donc la dernière exécution publique 1939
et Coubertin est mort en 37.
Ah ouais.
Victoire.
Oh là là, là
sans discussion
pâté.
Aujourd'hui.
La Bérézina
de Stéphane
pour moi
Bern.
Là. Oh là là. Faut
discussion.
Que je me ressaisisse.
Oh Stéphane.
h 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans jamais se la raconter, avec celui qui raconte les histoires mieux que personne, sauf Fabrice Luchini, mais il était trop cher. Lui, il était un tout petit peu moins. Stéphane Bern est mon délicieux acolyte.
Délicieux et enchanté à l'idée d'évoquer dans cette deuxième heure deux autres personnages d'Alexandre Dumas qui ont existé en vrai. À la veille des 150 ans de la disparition de ce grand écrivain. Après le chevalier d'Artagnan, je vais vous parler du vrai comte de Monte Cristo. Et quant à vous, Mathieu, vous aviez la lourde mission de trouver un troisième personnage contemporain.
Ouais, lourde.
Difficile, par définition, de trouver un personnage d'Alexandre Dumas encore vivant en 2020. Vous avez dû ruser.
Oui, Stéphane, mais ruser est une seconde nature chez moi. J'avais rusé aussi la fois où, pour faire une blague à Castello Lopez, j'avais planqué en douce une petite surprise dans le tiroir de son bureau.
Des testicules de furet.
Encore, j'ai rusé, c'est vrai, pour rester dans la thématique du jour. C'était pas simple. J'ai trouvé un personnage de Dumas ayant existé qui est encore vivant aujourd'hui. Isabelle Adjani. Bah oui, la reine Margot.
Vous êtes décidément très rusé, mon petit Renardo Helvète.
Merci, mon brave épagneul luxembourgeois.
L'autosatisfaction a du bon, mais n'oublions pas les chroniques qui nous attendent dans cette deuxième heure.
Certes.
Lui aurait pu être un héros d'Alexandre Dumas. En tout cas, il partage avec lui le goût des bonnes choses et de la bonne chair. Olivier Pouls.
Et oui, Alexandre Dumas était un fin gourmet. Il a d'ailleurs rédigé un indispensable dictionnaire de la gastronomie de son temps. Et dedans, eh bien, vous trouvez une recette que j'aime beaucoup, une recette originale de pommes de terre, vous allez voir, aérienne, délicieuse, un peu grasse, mais...
Un peu grasse. Il y avait dans ce livre d'Alexandre Dumas, si je me souviens, il me semble qu'on en avait déjà parlé un jour, des recettes complètement hallucinantes,
les pieds d'éléphant, le steak d'ours des Pyrénées, des choses comme ça, mais je vous rassure, celle que je vais vous donner est beaucoup plus
écoute,
réalisable.
Le steak d'ours des Pyrénées, c'est pour toi.
Le tartare de panda. Et puis, justement, la douce voix de David Castello-Lopez, vous nous racontez les origines de ce jour particulier, puisque c'est aujourd'hui ce qu'on appelle le vendredi noir, le Black Friday. Mais d'où ça vient, le Black Friday?
Exactement. Alors, ça vient des États-Unis, mais on n'a pas dit grand-chose quand on a dit ça. En tout cas, il y avait une rumeur qui circulait ces dernières années que c'était lié à l'esclavage. Et on verra que c'est totalement faux. Voilà.
C'est faux. Le dernier mot de cette émission reviendra évidemment, par ordre d'âge décroissant, à Stéphane Bern pour l'expression explicité, on va dire.
Oui, en vrac.
En vrac.
Oui.
D'où ça vient?
Je
peux dire une idée ou ça va déflorer votre chronique?
Allez-y.
C'est pas comme le vrac quand on achète des choses en vrac, des noisettes, des trucs en vrac.
Mais d'où ça vient?
Oui, c'est vrai que quand j'ai dit ça, je n'ai rien dit en fait. Je ne risquais pas de déflorer votre chronique avec cette analyse fine. Tout de suite, plongeons les amis dans l'histoire du vrai comte de Monte Cristo, celui qui en tout cas a inspiré Alexandre Dumas, un certain François Picot.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Célèbre assurément, Le Comte de Monte Cristo est aussi l'un des romans les plus dramatiques d'Alexandre Dumas. Quel destin tragique que celui d'Edmond Dantès. Trahi par ses proches le jour de ses fiançailles, injustement emprisonné au château d'If, mort puis ressuscité sous une fausse identité. Celle d'un comte immensément riche, habité d'une obsession dévorante, se venger de ceux par qui ses malheurs sont arrivés. Un héros maudit par excellence, ne pouvant être né que de l'imagination débordante d'un écrivain romantique comme Alexandre Dumas.
C'est ce qu'on se dit.
Eh bien, pas vraiment, Mathieu. Cette histoire invraisemblable est tirée d'une histoire vraie. Un fait divers qui a eu lieu au début du 19e siècle, l'histoire d'un certain François Picot. Preuve en est une nouvelle écrite de sa plume quelque temps avant Le Comte de Monte Cristo. un court récit intitulé « François Picot, une histoire contemporaine » et qui ne constitue rien de moins que l'ébauche méconnue de son chef-d'œuvre. Une ébauche qui relate le véritable destin, pour le moins terrible, d'un modeste cordonnier nîmois, un homme qui deviendra sous la plume de Dumas le maudit Edmond Dantès. Comment Dumas eut-il vent de l'histoire de ce malheureux François Picot? Il la découvre dans l'œuvre d'un certain Jacques Peuchet, ancien archiviste de la police de Paris. Un polygraphe infatigable, comme Dumas d'ailleurs, qui au cours de sa carrière compila un recueil intitulé « Mémoires tirées des archives de la police de Paris ». Une vaste manne d'anecdotes, dont l'une en particulier, attire l'attention de Dumas. Un récit au titre évocateur, « Le diamant et la vengeance, anecdote contemporaine ». Voilà en substance ce qu'il raconte. Toute ressemblance avec l'œuvre de Dumas n'est évidemment pas fortuite. L'histoire débute en 1807 à Paris, sous le Premier Empire. François Picot, un cordonnier âgé de 20 ans, est sur le point de se marier avec une belle et riche jeune femme. Mais l'union n'est pas du goût de tous. Quatre de ses connaissances, un cafetier du nom de Loupio, et les dénommés Alus, Solari et Chaubard, jaloux de l'insolente chance de Picot, décident de lui jouer un tour. Leur idée, retarder ses noces en faisant peser sur le futur marié des soupçons d'espionnage. La plaisanterie tourne mal. Picot est arrêté, sans jugement, et dans le plus grand secret, il est envoyé à la forteresse de Fenestrelle, une prison située dans le Piémont. Cette histoire vous dit quelque chose? Si l'on remplace les noms de Picot par Dantès, celui de la fiancée par Mercedes, ceux des fomenteurs de la plaisanterie par Morcerf, Danglars et Cadrousse, et que l'on remplace le fort de Fenestrelle par le château d'If, qu'obtient-on?
Les trois mousquetaires.
Ah non, mince, la trame quasi exacte du début du chef-d'œuvre de Dumas. Mais ce n'est pas fini, vous allez le voir. Dans cette prison où François Picot reste enfermé durant 7 longues années, il fait la connaissance d'un autre prisonnier. Je vous laisse deviner qui, Mathieu.
Ah ben, à tous les coups, un abbé qui lui révèle l'emplacement d'un trésor.
Bingo! Un riche ecclésiastique milanais, pour être précis, qui lui laisse en mourant une énorme fortune. L'équivalent, vous l'aurez deviné, du fameux abbé Faria dans le roman de Dumas. Quand il sort de prison rendu à la liberté par la chute de l'Empire, sa famille, ses amis, qui n'ont pu obtenir sur son sort aucune information, se sont fait à l'idée de sa disparition. Son ex-promise s'est même mariée, et pas avec n'importe qui, avec le cafetier Loupio.
Quelle horreur.
Parler d'une guine. Habité d'une rancune impitoyable, Picot veut à tout prix exercer sa vengeance. Bon, on le comprend. Il retrouve pour cela la trace d'un autre de ses anciens camarades, le dénommé Alu. Déguisé en prêtre, l'équivalent de l'abbé Busoni, dans le comte de Monte Cristo, il parvient à lui soutirer le nom de ses dénonciateurs en échange d'un diamant d'une grande valeur. D'où le titre du fait divers, le diamant et la vengeance. Leurs identités en poche, il se rend ensuite à Paris pour mettre à exécution sa terrible vengeance. Il assassine Chaubard et Solari, mais réserve un destin plus cruel encore à Loupio. Il fait séduire sa fille par un forçat, incendie son café, fait emprisonner son fils pour vol. De désespoir face à ses malheurs, la femme de Loupio se suicide. Et Picot finit par poignarder Loupio au jardin des Tuileries, non sans lui avoir d'abord révélé sa véritable identité. « Je prends mon bien où je le trouve », disait Molière. Voilà une phrase qui s'applique manifestement aussi à Alexandre Dumas. Même si, il faut le noter, quelques importantes différences existent entre le personnage de Dumas et son véritable alter ego. Par exemple, si Dantès sort triomphant de son œuvre, Picot, lui, n'a pas eu cette chance. Attention, divulgachage. Retrouver, après le meurtre de Loupio par Alu, celui qui lui a révélé le nom de ses dénonciateurs, François Picot, finit par se faire tuer. Mais voilà, Dumas n'avait pour dessein d'écrire une biographie. D'ailleurs, tout son génie créateur tenait à sa capacité d'insuffler à l'histoire, la vraie, celle avec un grand H, eh bien, la puissance dramatique du roman. D'un sinistre fait divers, il en fait l'un des plus grands romans du XIXe siècle, adapté près d'une trentaine de fois au cinéma. Ce n'est, vous l'avez compris cet après-midi, pas le seul emprunt, loin de là, qu'il fait à la réalité dans son œuvre, où l'on retrouve la trace de véritables faits. des emprunts qu'il fait également à sa propre histoire. Savez-vous, Mathieu, par exemple, d'où lui est venue l'inspiration pour le nom de Monte Cristo ?
Des cigares ?
Et non, il s'agit certes du véritable nom d'une île italienne, comme dans son roman, mais c'est aussi un nom bien connu dans la famille de l'écrivain. Celui de la propriété de son grand-oncle à Saint-Domingue, un commerçant négrier du XVIIe siècle, Charles David de la Pailleterie, le véritable nom de la famille Dumas, dont l'histoire d'ailleurs n'a rien à envier au roman de leurs descendants. Lointains horizons, trahisons, disputes, disparitions, largement de quoi nourrir des vocations d'écrivain chez Dumas, père et fils. Mais c'est une autre histoire, bon, que je vous raconterai peut-être dans un prochain récit.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler du comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, nous sommes avec un spécialiste pour qui Dumas n'a aucun secret. Bonjour Claude Aziza.
Bonjour.
Oui, Claude Aziza, bonjour. Vous avez publié et présenté de nombreux ouvrages de Dumas. Le dernier réédité, c'est justement Le Comte de Monte Cristo en édition illustrée, avec un texte dans lequel vous expliquez la genèse et la postérité du roman, ainsi qu'un dictionnaire Monte Cristo qui dévoile toutes les facettes de l'œuvre et de son auteur. Puiser dans un fait divers pour en faire la trame d'un roman, c'est un exercice qui facilite ou qui complique, à votre avis, le travail de l'écrivain qui est Alexandre Dumas?
Ah ben, je pense que la plupart des romans de Dumas sont pris soit dans des archives historiques, comme pour les Trois Mousquetaires, mais aussi autour de lui. Et Dumas, au point de départ d'ailleurs, ne pense pas au Comte de Monte Cristo, il veut écrire simplement quelque chose qu'il écrira d'ailleurs, qui s'appelle Les Crimes Célèbres. Donc il va feuilleter les archives de la police et il va découvrir l'histoire de François Picot.
Claude Aziza, moi j'aimerais qu'on aille droit au but sur cette question d'Auguste Maquet. On en avait déjà parlé dans cette émission. Quel est le rôle d'Auguste Maquet dans Le Comte de Monte Cristo ?
Ben, il est, comment dire, il est important, mais il n'est pas capital. C'est-à-dire que Dumas a l'habitude de travailler avec Maquet. Maquet, c'est un prof d'histoire, hein, qui a écrit des romans qui sont assez médiocres, il faut bien dire, mais il fait des fiches pour Dumas. Et Dumas lui parle de l'histoire de François Picot, et c'est Maquet qui dit, c'est Dumas qui l'avoue, hein, qui dit, ben, au lieu de, on va transformer cette histoire, et puis on va tourner ça autour de trois villes. Ces trois villes, ce sera Marseille, Rome et Paris. Voilà.
Mais Claude Aziza, pourquoi il n'a pas gardé le nom de François Picot? Et pourquoi Comte de Monte Cristo? Parce que c'est plus romanesque, ça fait rêver?
Non, pas du tout. Ah bon? Pas du tout, d'abord parce que il n'y a pas que l'histoire de François Picot qui est à la genèse de Monte Cristo. Je ne suis pas très chaud pour cette histoire qu'on trouve à Saint-Domingue. Ça, à mon avis, c'est totalement faux. Mais enfin, peu importe. D'abord parce que Dumas est en 41 à Florence. Il fréquente la famille du futur Napoléon III, et notamment son frère et le fils de son frère qui a 19 ans, qu'on appelle Bonaparte et qu'on appellera après Plomplon, peu importe. Et donc, Dumas est chargé de faire un peu l'éducation du jeune prince, et ils ont l'intention d'aller visiter l'île d'Elbe. Et lorsqu'ils arrivent à l'île d'Elbe, après une traversée très mouvementée, ils voient de loin une île et ils veulent s'en approcher, mais ils ne peuvent pas y aborder parce que il y a un problème de quarantaine qui va se poser. Et donc, Dumas note le nom de l'île et le prince lui dit, mais enfin, pourquoi vous notez ça? Pourquoi vous notez Monte Cristo? Et Dumas dit, ben, je m'en servirai un jour ou l'autre. Donc, vous voyez, on est déjà en 41. Bien, donc Dumas, il pense, mais il a aussi, et ce qu'on oublie la plupart du temps, c'est qu'il a écrit plusieurs romans qui sont la genèse de Monte Cristo. Il a écrit d'ailleurs un roman qu'on a édité il n'y a pas longtemps qui s'appelle Pauline, c'est un roman de 38, où on a un personnage qui rappelle Monte Cristo, puis il a écrit un autre roman en 43, qui s'appelle Georges, et qui est l'histoire d'un mulâtre qui est amoureux d'une femme, qui a été trahi par ses amis et qui va se venger. Donc vous voyez, lorsque Dumas commence en 44 le Comte de Monte Cristo, hein, donc il
y a Claude Aziza,
pas mal de choses derrière.
Oui, qui ressemble. D'ailleurs, vous dites, Claude Aziza, qu'Edmond Dantès deviendra le premier un type littéraire, celui du juste persécuté, victime d'une erreur judiciaire, lequel aboutira presque un demi-siècle plus tard à un genre à part entière, le roman de l'erreur judiciaire, dont l'archétype demeure la honte de Jules Marie. Et En quoi, pour vous, Dumas a été un précurseur dans le domaine de la littérature populaire et de la littérature policière, outre le fait qu'il reprend des faits divers ou qu'il publie sous forme de feuilletons qui ensuite se traduisent en livres?
Vous savez, d'abord, il y a quelque chose qu'on oublie toujours, c'est que le premier mystère en chambre close, hein, le mystère de la chambre jaune, c'est dans Monte Cristo. Pourquoi? Parce que Dantès est avec l'abbé Faria, qui, entre parenthèses, a existé. Lui a vraiment existé. Il comprend rien. Et l'abbé Faria, à partir de ce que va lui dire Dantès, c'est lui qui va peu à peu renouer tous les fils de l'histoire. Donc, ils sont en chambre close et il arrive à trouver ce qui s'est réellement passé. Ça, c'est le roman policier, si vous voulez. Le roman populaire, pourquoi? C'est qu'en 42-43, il y a les mystères de Paris qui sont un succès phénoménal, donc Dumas veut faire comme cela. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un roman contemporain. Tout le monde considère que Le Comte de Monte Cristo, c'est un roman historique. C'est totalement faux. C'est un roman historique maintenant, mais écrire en 1844 un roman qui commence en 1815 et qui se finit en 1838, c'est pas un roman historique. C'est un roman contemporain, c'est un roman réaliste. C'est comme ça que les contemporains de Dumas, ses lecteurs, vont voir Monte Cristo. Nous avons une vision fausse parce qu'on le regarde 150 ans après.
Merci beaucoup Claude Aziza. Je rappelle la très belle édition du Comte de Monte Cristo, pardon, en édition illustrée avec 173 gravures d'époque d'Edouard Rioux. C'est aux presses de la Cité Omnibus. Merci d'avoir été avec nous Claude Aziza.
Merci à vous.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages d'Alexandre Dumas qui ont existé en vrai. Après D'Artagnan et le Comte de Monte Cristo, Mathieu, vous avez réussi le tour de force de dégoter un personnage de Dumas qui a existé et qui surtout vit encore à l'heure où nous parlons. Mais je ne sais pas comment vous avez accompli ce prodige.
Vous savez Stéphane, accomplir des prodiges est un peu une deuxième nature chez moi.
Vous êtes mon dieu.
Mais là, je dois dire que pour réussir à trouver un personnage de Dumas ayant existé mais toujours en vie deux siècles plus tard, il a fallu ruser et même, je l'avoue, recourir à la technique dite Castello-Lopez de l'entubage, entubaginio. Comme sur la spéciale Belgique, où après avoir fait genre à l'antenne, il nous avait en fait avoué durant la pub que son invention du jour n'était en fait pas vraiment complètement belge.
C'est tout petit peu attiré par les cheveux de dire que c'est belge.
Ah bon? Alors ça, c'est David. Il n'a pas peur de prendre des libertés avec la rigueur journalistique, mais moi, vous me connaissez, ça me dérange beaucoup plus.
Oui, bien
mais bon,
sûr.
Je vais quand même vous parler d'Isabelle Adjani. Pourquoi? Parce qu'elle a joué la reine Margot et qu'elle est encore en vie. C'est génial, non?
C'est formidable d'être un génie comme ça.
Voilà, j'avais mis le son parce que je pensais pas que vous me le diriez en vrai. Donc, zoom sur l'une des plus grandes actrices françaises de tous les temps. Inoubliable dans le rôle qui lui valut le César de la meilleure actrice en 94, la reine Margot, chef-d'œuvre de Patrice Chéreau, hantée par la violence, le sexe et la mort, et qui, on peut le dire, a ouvert la voie aux Tudor, Borgia et autres Game of Thrones. Dans un monde où on appelle désormais stars des individus remarquablement dénués de toute forme de talent comme Kim Kardashian et Nabila, Isabelle Adjani fait figure de star à l'ancienne. Ces stars qui, chose incongrue aujourd'hui, étaient devenues stars au mérite de par leur génie ou leur travail. Il devrait y avoir un label rouge des vedettes afin qu'on puisse s'y retrouver. Isabelle Adjani, elle, décroche le label rouge haut la main. Car avant de devenir une icône du cinéma français, Isabelle fut une comédienne de théâtre surdouée. Dès l'âge de 12 ans, elle est sur les planches. Très vite, elle éblouit Robert Hossein. Puis, encore adolescente, elle irradie la scène de la comédie française dans le rôle d'Agnès dans L'École des Femmes. Vous connaissez L'École des Femmes, Stéphane?
Jacques Martin.
Molière. Suivra une autre interprétation qui sciera les spectateurs du français, celle de Ondine, de Jean Giraudoux. Isabelle n'a pas 17 ans. C'est en 74 qu'elle crève l'écran pour la première fois dans La Gifle de Claude Pinoteau, film en forme de prémonition de ce que sera le quotidien des parents d'ados difficiles durant le confinement. Très vite, Isabelle Adjani devient plus qu'une grande actrice, un sexe symbole. Elle semble magnétiser tous les hommes qui croisent son chemin. Truffaut en tombe éperdument amoureux, il dira d'elle, évoquant le tournage de L'Histoire d'Adèle H, film magnifique que je vous conseille, « La voir était une souffrance de tous les jours. Le soir, mes yeux et mes oreilles sont fatigués de la voir trop fortement regarder et écouter toute la journée. » Tous les réalisateurs qui tournent avec elle semblent tomber amoureux d'elle, Stéphane. Tous, sauf Patrice Chéreau.
Ah, il était impuissant.
Non, il était gay. Mais il avait aussi une fascination pour Adjani. Il rêve pour elle d'un projet immense, d'une fresque historique. Il pense à Alexandre Dumas. Mais les Trois Mousquetaires, c'est trop fait, trop vu. On lui suggère alors la reine Margot. Il découvre un roman dense. 672 pages d'amour, de tromperie, de violence, de trahison.
Et de consanguinité.
Oui, on dirait un été chez Stéphane Aparos.
Oh non.
Patrice Chéreau adore. Trois fois, il démarre la préparation du film. Trois fois, ça capote. Karadjani, telle une girouette sous Gouronzan, accepte le rôle, puis le décline, puis le réaccepte, puis non, puis oui, puis je ne sais pas. Avant, enfin, de trancher pour le oui. The yes, Stéphane.
Wow, yes, I yes.
Yes, yes, yes. Sur le tournage, aussi épique que le film lui-même, Patrice Chéreau s'emballe un peu. La première version du film fait 4h30. Elle sera finalement condensée à 2h39, ce qui est déjà pas mal. Deux manières de résumer le film, la version chic et la version longue. La version choc et court, version longue. Avec orgue chiant. La reine Margot est une fresque historique sur le massacre de la Saint-Barthélemy qui revient sur l'extinction des Valois du trône de France et s'inspire d'un roman feuilleton d'Alexandre Dumas consacré au mariage d'Henri de Navarre, futur Henri IV, avec Marguerite de France. Version courte, Margot ferait crac-crac en douce avec le marquis de la Mole, Henri IV, pas content. Au final, un chef-d'œuvre qui ne fait pas l'unanimité au moment de sa sortie en 94, on l'a oublié, mais qui vaudra tout de même le prix du jury à Cannes à son réalisateur et le César à Isabelle Adjani, qui reste relativement mystérieuse humainement parlant. Il y a un côté Mylène Farmer chez Adjani ou Adjani chez Mylène Farmer, je ne sais pas. Diva pour les uns, meuf hyper simple et accessible pour les autres, difficile de savoir. Dominique Besnéder, qui a été son agent et que vous imitez à la perfection Stéphane, dit qu'elle est super sympa, de même que le réalisateur Romain Gavras, qui a carrément déclaré au sujet du film qu'ils ont tourné ensemble, sur le plateau, il y a des figurants qui étaient plus difficiles qu'Isabelle. Un autre réalisateur raconte qu'une fois Isabelle a même acheté des petits masseurs électriques pour les techniciens qui avaient mal au dos. Une anecdote qui mériterait cela dit d'être vérifiée et surtout analysée car de mon temps, dans les pages de La Redoute, certains petits masseurs électriques dits pour le dos n'étaient en fait pas vraiment pour le dos. Bref, sympatoche Laïsa. Pas envie donc de relayer les autres sons de cloche moins flatteurs selon lesquels elle serait souvent en retard, aurait à ses débuts demandé aux journalistes de faire taire sa date de naissance, voire de leur demander d'écrire qu'elle était plus jeune qu'Isabelle Huppert, sa grande rivale. Tout ça n'est pas digne du portrait flagorneur que je m'étais promis d'écrire afin qu'Isabelle Adjani reste toujours une reine dans nos cœurs, conclurait un journaliste de Télé Z, comme quoi une belle carrière m'attend peut-être à Télé Z. Une chose est sûre, 26 ans après la reine Margot, le cinéma français se cherche encore un talent du niveau d'Adjani. Je sais Stéphane que, grisé par vos succès d'audience dans Meurtre en Lorraine, vous avez postulé dernièrement au casting de la reine Margot 2, où on vous a fait jouer au casting la peur face aux atrocités de la Saint-Barthélemy.
Ah, j'ai eu peur.
Indéniablement, la relève est là, le cinéma français peut respirer.
Merci Mathieu, c'était... Combien? Elle est 99%
vrai? 99,9%
vrai
aujourd'hui.
Mais vous savez, elle est les deux. Elle est à la fois...
Oui, il y a
à
les
la
deux sons de cloche.
Elle est star, et en même temps, quand vous dînez avec elle et que vous discutez avec elle, c'est la femme la plus simple. Elle est brillantissime. Honnêtement.
Et surtout, il faut le rappeler aux jeunes qui n'ont pas connu Adjani avant le succès cinématographique. On peut penser qu'elle était connue parce qu'elle est très belle, c'est un sex symbol, mais c'était surtout une immense actrice,
une comédienne
de théâtre, de la Comédie française, exceptionnelle.
Et elle est, comment vous dire, quand elle vous regarde de ses yeux, vous tombez immédiatement amoureux.
Ah oui, on
peut pas lui résister. Elle a quelque chose de magnétique, cette femme.
Ah oui.
Moi, j'avoue que j'ai une passion pour elle.
Écoutez, je pense qu'elle peut venir ici quand elle veut, du coup, si elle a envie de nous parler d'histoire.
Mais je lui dis chaque fois,
vous la croiser.
Elle est venue une fois faire une émission, mais elle garde ses lunettes. Oui, c'est la star, mais je crois qu'elle se protège du monde aussi extérieur. Je peux comprendre ça.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre dépoussière l'histoire chaque après-midi avec Stéphane Bern et David Castello-Lopez pour le retour aux origines d'une invention, aujourd'hui d'un phénomène.
Aujourd'hui, c'est le Black Friday, donc on va parler des origines du Black Friday. En 2008, il y a 12 ans, j'ai passé un an aux États-Unis à côté de San Francisco et je le savais pas encore, mais j'ai vu pour la première fois tout un tas de choses qui ont envahi la planète dans les années qui ont suivi, mais qui à cette époque étaient présentes que aux États-Unis et pour certaines même que en Californie. Les pulls en laine moche qu'on porte au second degré.
Ah oui, il y a même un concours.
Oui, c'est les premières fois que j'ai vu ces concours-là. Les hipsters qui n'étaient pas en France, qui étaient les gender studies.
C'est quoi ça?
C'est l'étude des implications du genre sur les inégalités dans la société.
Oui, je comprends que vous parliez très bien l'anglais, mais moi,
il est bien
moi qui suis un peu franchouillard, vous voyez.
Les choses sans gluten aussi, pour la première fois. Le chou
les
kale.
Les choses gluten-free, vous voulez dire.
Le chou kale.
Alors, le chou kale, faites attention, le chou kale, hein, parce que ça a des effets sur les intestins qui sont pas forcément louables. Hein. C'est peut-être bon pour d'autres parties du corps.
Moi, on me dit que c'est très bon pour éviter le cancer, donc j'en mange tous les jours.
Ah oui, il y a d'autres problèmes.
Netflix, que j'ai vu pour la première fois aussi, et qui à l'époque consistait à recevoir des DVD par la poste et à les renvoyer une fois qu'on les avait vus. Et puis j'ai connu aussi mon premier Black Friday qui à l'époque n'avait pas encore du tout migré en France.
Et j'ai été un petit peu frappé quand même parce que c'était quand même des soldes où les gens se battaient avec une violence mais que j'avais jamais vue. L'année où j'étais aux États-Unis, il y a quelqu'un qui est mort, écrasé sous d'autres gens parce qu'il voulait rentrer dans le magasin le plus vite possible. Et dans ma tête, moi j'ai mis ça dans la catégorie « ils sont fous ces ricains » et j'ai un petit peu oublié. Et puis quelques années plus tard, donc je l'ai vu arriver en France en 2013-2014. Je me suis demandé pourquoi d'ailleurs ça avait migré en France à ce moment-là et pas avant ou après. Et j'ai pas réussi à trouver la réponse, mais je me dis qu'il y a peut-être un petit lien avec South Park. Vous connaissez South Park, le dessin animé américain trash, qui est quand même très regardé en France. Et qui précisément en 2013 a sorti un triple épisode sur le Black Friday qui parodiait Game of Thrones avec dans le rôle de l'armée des morts les gens qui veulent acheter des choses. Alors corrélation, causalité, la question reste ouverte. Alors tout ça évidemment ça ne nous dit pas d'où vient ça, le Black Friday. Bon, je vais commencer par vous dire que ça n'a aucun rapport avec l'esclavage. Et si je dis ça, c'est qu'il y a quelques années, il y a une fausse information qui a circulé et qui disait que le Black Friday au départ c'était une journée de solde sur les esclaves au 19e siècle où les propriétaires liquidaient leurs stock. Ça a été repris des milliers de fois sur les réseaux sociaux, mais c'est faux, de chez complètement pas vrai. Donc maintenant, je vais expliquer la vraie raison. Alors, aux États-Unis, il y a une fête très importante qu'on commence à connaître un petit peu en France et qui s'appelle Thanksgiving. Et qui est en gros faite pour dire merci à ce qui s'est passé de cool dans l'année écoulée.
Bah cette année, franchement, il y avait rien à remercier.
Tout à fait. Et c'est un jour férié aux États-Unis et il a toujours lieu le 4e jeudi de novembre. Un jeudi, donc. Alors, vous savez ce qui se passe quand vous laissez un seul jour d'écart entre un jour férié et le week-end?
C'est le pont.
Et bah, tout le monde fait le pont. Voilà. Et donc, le vendredi qui suit Thanksgiving, c'est devenu un jour où tout le monde sort pour faire des courses. D'autant plus que c'est assez proche de Noël et que donc les gens se disent, je vais acheter des cadeaux. Et il y a au moins une ville aux États-Unis où ce phénomène est encore pire. C'est Philadelphie. Parce qu'à Philadelphie, le samedi qui suit, le surlendemain de Thanksgiving, donc, il y a traditionnellement un des matchs de football américain les plus importants de l'année entre l'équipe de l'école militaire de West Point et l'équipe de l'école navale. Et donc, il y avait encore plus de gens qui arrivaient le vendredi dans la ville, non seulement pour faire des courses, mais aussi pour voir le match. Et dans les années 50, les policiers de Philadelphie, ils ont commencé à détester ce jour très très fort, ce vendredi, parce que déjà, eux, comme ils faisaient la sécurité, eh ben, ils pouvaient pas prendre deux jours de congé, mais en plus, ils devaient travailler plus longtemps pour gérer la foule, et troisièmement, il y avait plein de pickpockets et de voleurs qui profitaient du bordel pour voler des choses, donc pour eux, c'était un jour de merde. Et ce sont eux qui, très probablement, ont commencé à appeler ce jour le Black Friday, qui veut dire vendredi noir, sous-entendu, le vendredi horrible où on doit bosser trois fois plus que d'habitude. Petit à petit aussi, c'est devenu un jour de solde, et l'expression s'est répandue. Mais les commerçants, ils ont commencé à trouver que c'était pas top top que leur jour de solde, il s'appelle le vendredi horrible. Et donc, dans les années 80, ils ont essayé de faire circuler une autre explication, en disant, sur les feuilles de compte traditionnellement, les commerçants écrivent leurs pertes en rouge, et leurs gains en noir. Et quand ils font une mauvaise année dans le rouge, eh bien le vendredi après Thanksgiving, ils ont une chance de revenir dans le noir. D'où Black Friday. Mais c'est pas vrai. Vous le savez à présent, Black Friday, ça veut dire vendredi nul, en fait, au départ.
Vendredi nul.
Bravo.
C'était la vraie histoire
c'est
du Black
passionnant.
Friday. Il y a que sur Europe 1 que vous l'avez entendu.
Mais forcément, il a vécu là-bas.
Donc, forcément, il était là
David
au début.
David Cassel-Lopez, heureusement, il était lui-même était aux origines du Black Friday.
Ça trouve c'est lui qui l'a créé. On peut le dire. On peut le
on
dire.
Retrouve les origines en podcast et sur toutes les applis audio, sur le site évidemment. Europe1.fr. Merci David.
Et Stéphane, après celui qui dans les Trois Mousquetaires aurait indéniablement été Aramis, nous allons maintenant écouter celui qui aurait été un bon Porthos. Olivier Pouls, notre bon vivant, va vous raconter l'histoire des pommes de terre d'Alexandre Dumas.
Le Porthos, c'est pas moi, c'est lui.
Oui, oui, voilà. J'essayais d'éviter parce qu'en disant, j'ai réalisé en disant qu'il y avait une double signification possible. Je me suis dit, heureusement, personne ne l'a relevé. Et vous, Pouls, hein, les deux pieds dans le plat.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Depuis qu'il a compris qu'il était belge, après 73 numéros d'Historiquement vôtre, Stéphane Bern adore accueillir Olivier Pouls en prenant l'accent.
Ah oui, une fois dirlé.
C'est gênant pour tout le monde, alors Olivier, passons rapidement à la recette et son histoire.
Mais vous êtes une boule de vis.
Oui, je suis là pour ça, Stéphane. Aujourd'hui, on parlait d'Alexandre Dumas, on parlait de ses héros d'Alexandre Dumas qui ont existé. En vrai, on a vu que D'Artagnan existait, Monte-Cristo existait, mais les pommes de terre d'Alexandre Dumas, voilà un autre personnage intéressant.
Ces recettes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Alexandre Dumas, le dernier ouvrage d'Alexandre Dumas, c'est le Grand Dictionnaire de la Cuisine, un livre qu'il a rédigé entre 1869 et 1870, c'est-à-dire jusqu'à la fin. Il a d'ailleurs remis le manuscrit en mars, il est décédé, donc on l'a vu tout à l'heure, au mois de décembre. Et il avait dit de cet ouvrage qu'il serait l'oreiller de sa vieillesse. Alexandre Dumas était un passionné de cuisine, c'était un cuisinier lui-même. Il s'est d'ailleurs retiré à Roscoff pour écrire ce dictionnaire avec sa cuisinière. Et durant un an, il a cuisiné avec elle parce qu'il prétend avoir testé quelques-unes des 3000 recettes qui figurent dans ce dictionnaire. Alors dans ce dictionnaire, il y a un peu de tout et de n'importe quoi, des recettes complètement farfelues, on l'a dit tout à l'heure, hein, comme les pieds d'éléphant, l'ours des Pyrénées ou la tortue, recettes qu'il prétend avoir mangées lors de ses très nombreux voyages, et puis des recettes beaucoup plus concrètes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce dictionnaire, qui est vraiment passionnant à lire, photographie de l'époque, de l'état de la cuisine à l'époque, n'est pas un livre de cuisine tel qu'on l'imagine aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut pas réellement l'utiliser parce qu'il y a pas les proportions, il y a pas les
quoi,
températures.
Non, il faut les interpréter.
Voilà.
C'est vrai.
Et il les raconte, il raconte d'accord. de manière absolument brillante et ça vous donne faim. Ça donne très faim de lire, mais on peut pas concrètement le faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce livre était entre guillemets traduit en cuisine à plusieurs reprises, notamment par Alain Ducasse, par Babette de Rosière ou par Jacqueline Huyric, qui en ont écrit des versions. On va dire exploitable.
Oui, avec les proportions et les ingrédients.
C'est mieux pour faire la recette. Et donc, parmi ces recettes, il y en a une que j'aime beaucoup parce qu'il y a laissé son nom. Ce sont les pommes de terre à la Alexandre Dumas. Une version, on va dire, allégée des pommes de terre frites, si on peut dire, qu'il trouvait peut-être un peu copieuse. Et donc,
il a l'air de faire très attention à sa ligne.
Oui, c'est ça.
Après les quelques clichés qu'on a.
Surtout quand il porte Ada sur ses...
Adada.
Voilà. Donc, il livre cette recette et je vais vous la donner, bien évidemment, traduite en cuisine contemporaine, donc tout à fait faisable. Donc 1 kilo de pommes de terre, il mentionne des pommes de terre à chair jaune, c'est-à-dire des Agatha ou des Mona Lisa, ça se trouve assez facilement. Il vous faut 4 œufs, 10 centilitres de crème, persil, ciboule ou ciboulette, poivre, sel, muscade. Alors c'est vraiment simple, hein. Vous allez d'abord confectionner une purée, donc on cuit les pommes de terre dans l'eau. On ne les épluche pas tout de suite parce que je vous rappelle que il faut pas que les pommes de terre se gorgent d'eau au moment de la cuisson. Donc on les épluche toujours après les avoir cuites.
Oui, mais ça fait mal aux mains, c'est chaud.
Bah, vous entraînez un petit peu et puis vous les laissez refroidir. Hein. Vous n'êtes pas obligé de les éplucher dès qu'elles sortent de l'eau. Vous pouvez les laisser refroidir quelques minutes.
Mais il faut avoir du temps.
Et puis après, vous les passez au moulin à légumes, au presse-purée. Vous réalisez une purée. Vous séparez les jaunes des blancs des œufs. Vous rajoutez les jaunes, la crème. Et vous montez les blancs en neige. C'est ça l'astuce de sa petite recette.
Ah.
On incorpore le tout, la purée de pommes de terre, les blancs montés en neige, qui donnent une pâte relativement légère, en fait. Mmh. Et puis, c'est lui qui le raconte. Faites-en glisser dans une friture bien chaude le quart d'une cuillère à bouche. Cette pâte renfle et forme des espèces de pets de nonne. Donc, c'est des petits beignets, en fait. Et en fait, ça va souffler les pommes de terre. Et vous aurez des petits beignets de pommes de terre vraiment délicieux, un peu croustillants et très moelleux à l'intérieur. Voilà ce que préconisait Alexandre Dumas pour accompagner notamment des côtelettes.
Des côtelettes. Mais alors, vous avez noté, Stéphane, c'est pas avec vos pommes de terre à vous, hein. C'est avec d'autres pommes de terre.
Mais j'ai pas de pommes de terre.
Si,
moi.
Vous aviez une marque de pommes de terre à l'époque. Vous étiez propriétaire de cette marque de pommes de terre.
Princesse Amandine. Voilà.
Vous portiez
celle qui était beurrée.
Moi, je n'achetais que ça, du coup, comme je foute toujours.
Il y a la Charlotte aussi.
C'est ce que vous dites.
Oui, mais l'idéal, c'est d'avoir une pomme de terre avec une chair un peu farineuse qui se transforme facilement en purée.
Oui, très bien. Ben merci en tout cas, Olivier. On peut retrouver toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr. Et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte de 11h à 12h30.
Et on peut se procurer le grand dictionnaire de la cuisine d'Alexandre Dumas, qui se trouve encore, qui est réédité et qu'on peut lire, qui a été publié 3 ans après sa mort, en réalité. Il l'a pas vu.
Pour avoir le mot de la fin dans cette émission, une émission aussi prestigieuse que la nôtre, je crois qu'il faut allier érudition encyclopédique et charisme magnétique. Autour de cette table, je ne vois que vous, Stéphane. Aujourd'hui, ce mot de la fin est très bref.
Pourquoi vous me flattez après toutes les horreurs
que
vous avez dites?
Tout est question d'équilibre, je suis suisse. Vous savez, je suis neutre, donc
c'est ça.
Une pique et hop, une flatterie, une caresse.
Mais là, oui, j'ai le cœur en vrac. En vrac. Alors, c'est vrai qu'en vrac, en plus, c'est assez écolo en ce moment. Il faut acheter en vrac pour éviter les emballages. Mais pourquoi on dit en vrac?
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Quand il finit cette émission, avouons-le, il termine un peu en vrac. Stéphane Bern, votre mot de la fin aujourd'hui, justement, cette expression.
Oui, Mathieu, en bon bobo hipster que vous êtes, ce week-end, vous allez très certainement acheter des noix de cajou en vrac pour manger avec votre steak de chou-fleur à la graine de chien.
Arrosé de bière artisanale.
Eh bien, grâce à moi, vous saurez, vous allez savoir dans un instant d'où vient l'expression en vrac.
Ah, Stéphane, il me tarde d'avoir la réponse à cette question que je m'étais jamais posée.
Eh bien, en vrac vient du néerlandais et plus précisément du mot vrac, mais qui s'écrit avec un W.
Depuis le XVIIIe siècle, ce mot désigne ce qui est mauvais en général et en particulier tous les harengs de mauvaise qualité qui ne méritent pas d'être rangés et empaquetés. C'est un poisson bon marché, consommé couramment, qui est exposé là, en vrac. Dans le nord de la France, où les liens commerciaux avec les Pays-Bas sont très forts, le mot s'est installé, s'est francisé et il s'écrit désormais avec un V. C'est amusant de constater que la jeune génération s'est emparée de l'expression, reprenant une situation où quand le chaos règne, quand le désordre a pris le pouvoir, quand on est totalement incapable de faire quelque chose de sensé et de logique, on dit volontiers « Oh, je suis en vrac ». Notez que cela vaut autant pour un rangement de bureau, les affaires sont en vrac, les désagréments physiques, on peut avoir le coude en vrac,
comme les
contrariétés intestinales, on dit on a les intestins en vrac.
Témoignage personnel peut-être,
ben,
Stéphane ?
Oui, ben, au fond, c'est lié à l'origine, c'est-à-dire quand vous mangez des harengs, et ben, non.
Moi, les pires harengs que j'ai mangés, c'était à Fort Boyard. Des harengs périmés depuis 25 ans.
Ah oui,
le médecin a dit on peut les manger, mais par contre l'odeur, c'était monstrueux.
Ah oui, c'est ça. Et après, vous avez les intestins en vrac.
Oui.
C'est drôle, ça vient
c'est
des harengs.
C'est un très beau poisson, le hareng. Il faut réhabiliter le hareng. C'est
oui,
un poisson délicieux pour la santé, en plus. Et pas cher.
On laissait en vrac tous les harengs qui étaient, disons, moins jolis à empaqueter et à commercialiser. Voilà d'où vient l'expression en vrac.
Merci les Hollandais, merci le hareng.
Et merci Stéphane Bern. Notre émission consacrée aujourd'hui aux personnages d'Alexandre Dumas qui ont existé pour de bon s'achève, Stéphane. Il nous faut dire adieu au comte d'Artagnan, à celui de Monte Cristo et à la reine Margot. Quel destin vous a le plus ému, Stéphane ?
Écoutez, au fond, ce qui m'a beaucoup ému, c'est votre récit d'Isabelle Adjani.
Que vous connaissez, donc j'ai découvert à la fin. Vous avez bien attendu la fin pour me dire que c'était votre copine. C'est bien
non,
ça.
Je l'aime beaucoup, oui, effectivement, mais vous n'avez pas dit trop de mal.
Ah, j'ai pas dit mal du tout. Non, j'ai essayé d'être assez
vous
juste.
Vous étiez comme. En tout cas, vous pourriez faire carrière à TVZ.
C'est la fin de l'émission. David, une dernière info dont tout le monde se fout.
J'étais membre du souvenir napoléonien.
Merci.
Ah non.
Merci à tous. On se retrouve demain.
Volontiers, Mathieu, à demain.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.